Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. La violence traverse l'histoire. Elle est un immense champ de force et de pouvoir, dont la guerre est un des théâtres majeurs, mais pas le seul. Un vaste champ d'études aussi, que l'actualité, souvent violente, que nous vivons, a contribué à développer par les questions qu'elle pose. La violence, donc, est notre sujet d'aujourd'hui. Nous parlerons surtout de violence sexuée. Pas nécessairement sexuelle, mais sexuée. Violence exercée sur les femmes, mais aussi violence exercée par les femmes, ce qui est sans doute plus rarement évoqué. Nous poserons, en somme, la question du genre de la violence autour de deux ouvrages dont voici les auteurs. José Cubero, vous êtes historien, vous vous intéressez aux errants, aux étrangers. Vous avez publié aux éditions Imago, Nationalistes et étrangers, le massacre d'Aigues-Mortes 1893. C'est un livre qui était paru en 1996. Qui m'intéresse particulièrement à cause du massacre des Italiens d'Aigues-Mortes, qui est un grand sujet. Vous avez publié « Histoire du vagabondage, du Moyen-Âge à nos jours », qui est paru en 1999 aux mêmes éditions. Et puis aussi « Une révolte antifiscale au XVIIe siècle ». Et alors aujourd'hui, « La femme et le soldat, viol et violence de guerre du Moyen-Âge à nos jours » par Imago 2012. Colline Cardy, Geneviève Pruvost, vous êtes sociologue. Colline Cardy, maître de conférence à l'Université Paris 8 et vous travaillez sur la déviance et le contrôle social des femmes. Geneviève Pruvost, vous êtes sociologue au CNRS, vous êtes rattachée au CESDIP, qui est un laboratoire d'études de sociologie pénale, et vous avez obtenu la médaille de bronze du CNRS, ce qui est tout à fait glorieux. Vous êtes l'auteur notamment de « Profession, policier, sexe, féminin », qui est paru à l'École des hautes études en sciences sociales en 2007. Au fond, c'est la femme flic, si on peut dire. Livre pour lequel je vous avais invité. Toutes les deux, vous dirigez aujourd'hui un ouvrage collectif « Penser la violence des femmes » et qui vient de paraître à la découverte. C'est un ouvrage très riche en contributions historiques, sociologiques, anthropologiques, et nous allons entrer tout à l'heure dans le détail de chacun de vos livres. Mais avant d'entrer dans le labyrinthe de ces livres, je voudrais d'abord vous poser à tous les trois quelques questions d'ensemble. D'abord, au fond, qu'est-ce que c'est que la violence? Alors, on ne va pas rentrer, bien sûr, dans des grandes théories de la violence. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un fait violent et qu'est-ce que vous avez retenu, José Cubero, par exemple?
Eh bien, moi, j'ai retenu d'abord cette violence à travers deux rencontres. La première rencontre, vous l'avez évoquée, c'est le massacre des Italiens. C'est la violence, je dirais, dévoilée, publique, que l'on subit comme un choc lorsqu'on la découvre, à travers les documents, là en l'occurrence. Et puis il y a un autre type de violence que j'ai découvert aussi, c'est cette violence sociale qui était faite, par exemple, aux marginaux, aux vagabonds, etc. Et dans mon dernier ouvrage, c'est un autre type de violence, bien entendu, c'est la violence de guerre. Mais c'est une violence qui touche aussi bien ceux qui font la guerre et qui sont armés et qui parfois se comportent comme des bourreaux, que les populations qui subissent la violence. Elle n'a pas la même forme, mais fondamentalement, c'est la même violence qui s'exprime.
Autrement dit, il y a l'idée de violence physique, matérielle, mais il peut y avoir aussi violence symbolique. Et là, évidemment, c'est plus complexe. Alors, Geneviève Pruvost.
Avec Colline Cardy et une partie une grande partie des contributeurs de cet ouvrage, on s'est fondé sur différents types de violences, puisque notre livre essaie de prendre en compte le spectre le plus large des violences exercées par les femmes, aussi bien des violences publiques que des violences privées. Et donc, si on devait retenir trois lignes de partage qu'on a essayé d'aborder, c'est d'abord la violence légitime d'un côté, donc exercée par l'État, et qui donc est reconnue comme étant non condamnable légalement, et de l'autre côté, la violence illégitime, donc violence légale d'un côté, violence illégale. Ensuite, on a une seconde ligne de partage qui est celle de la violence visible d'un côté, spectaculaire, et de l'autre, de la violence plus invisible, plus discrète, et ce qui pour nous, travaillant sur la violence exercée par les femmes, on était obligé d'accéder à ce niveau plus discret de violence et aussi de montrer que les histoires de la violence ou les récits de la violence omettent parfois cette part plus masquée de la violence. Et dernière ligne de partage, c'est celle de la violence en situation. Nous sommes sociologues, il y a aussi beaucoup d'historiens, et violence racontée. Et c'est là vraiment le point le plus important, je pense, de cet ouvrage, c'est que, de fait, on n'a pas évoqué de violence observée in situ, en situation. Et tout l'enjeu de cet ouvrage, c'est quelle source utiliser. Et donc, on se fonde sur les discours de la violence.
Absolument.
Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça penser la violence des femmes, c'est penser les discours qui accompagnent la violence des femmes.
Oui, Colline Cardy.
Oui, avec cette idée effectivement que on partait finalement d'une définition performative de la violence, c'est-à-dire.
Qu'est-ce que vous entendez par performatif ?
Alors cette idée que la violence est ce qui est considéré comme violent à un moment donné, ce qui permettait aussi d'historiciser la question de la violence des femmes, mais aussi justement de travailler de ce jeu de visibilisation-invisibilisation, ce qui est considéré comme légitime, ce qui ne l'est pas à un moment donné. Et donc de réancrer, de contextualiser la façon dont les sociétés ont pensé et pensent encore aujourd'hui la violence des femmes.
Oui, et évidemment, comme vous étudiez la violence des femmes, faite par les femmes, qu'elle est généralement plus occultée et plus cachée, vous êtes obligé un petit peu d'élargir la notion de violence.
Hein.
La violence de guerre, on va le voir, est plus visible, hein, plus évidente. La violence produite par les femmes est plus compliquée à saisir, étant donné justement qu'on va le voir, on la nie. Une violence tout à fait niée. Oui, José Cubero.
Il y a une violence qui se déroule pendant la guerre, mais qui reste invisible. Je veux parler, par exemple, de ces femmes qui subissent des viols ou des attaques sexuées de divers ordres et qui sont à la fois des victimes, mais en même temps des victimes qui ont tellement honte qu'elles se taisent. Et donc, cette violence-là est subie d'abord, mais ensuite, elle est intériorisée et celle-là n'apparaît pas, sauf, comme cela a été signalé, à travers des témoignages, des récits. Et là, on revient sur le problème des sources.
Oui, problème des sources que je vais en effet vous poser un peu à tous les trois. C'est difficile d'étudier la violence sexuelle dans la mesure où il y a justement ces problèmes de honte, de peur, de pudeur qui interviennent et qui fait que on n'ose pas en parler si on l'a subi. On n'ose peut-être pas toujours en parler si on l'a fait aussi, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, il y a un exemple assez extraordinaire dans votre livre, José Cubero, Martha Hiller, cette femme de Berlin. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Car je crois qu'elle est un exemple assez étonnant.
Eh bien, lorsque les soviétiques investissent Berlin, Martha Hiller, qui est une femme anonyme à ce moment-là, dans un gros cahier, va tenir un journal. Et elle va expliquer des choses qui relèvent en temps normal de l'indicible, c'est-à-dire les troupes soviétiques qui arrivent, les viols qui vont être commis.
Très nombreux.
Hein. Très nombreux.
Très systématiques même.
On estime qu'à Berlin, il y a eu environ 5000 viols pendant cette très courte période, c'est-à-dire l'arrivée des troupes soviétiques jusqu'à la fin des combats, même s'il y en a eu encore quelques-uns par la suite. Et donc, cette journaliste va tenir un journal, et dans ce journal, elle raconte, chose totalement scandaleuse, les accommodements, entre guillemets, qu'elle est obligée de consentir. Pour ne pas être violée régulièrement, elle doit trouver, comme elle dit, un protecteur. C'est-à-dire que finalement, elle va vendre son corps contre un peu de sécurité et un peu de nourriture. Et elle explique comment les maris, qui sont là encore, certains d'entre eux, sont dans l'impossibilité de défendre leur femme. Et donc, c'est le rôle protecteur de l'homme, également, traditionnel, qui est nié. Et lorsque ce journal sera publié, il sera publié hors d'Allemagne d'abord, ensuite en Allemagne.
À quel moment ?
Mais il est publié dans les années 60.
Dans les années 60.
Dans les années 60. Oui. Et lorsqu'il est publié dans la version allemande, mais de façon anonyme, cela va faire un terrible scandale. Et Martha Hiller demandera qu'on ne le publie plus, et ce ne sera qu'après sa mort que l'on découvrira son identité. On en a fait un film, et on en a fait également une pièce de théâtre avec Isabelle Carré qui jouait le rôle. Donc, effectivement, c'est une source tout à fait exceptionnelle, parce que c'est un témoignage au jour le jour de ce qui relève de l'indicible pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Oui. Et elle explique comment le retour de son compagnon, ben, c'est une tragédie parce que rien n'est plus possible. Mmh. Et donc on décide de se taire à la fois du côté des femmes pour ne pas que les maris sachent, même s'ils se doutent. Et les maris se taisent aussi parce qu'ils ne dévoilent pas ce qu'ils ont fait, eux, pendant ce que les Allemands appellent aujourd'hui la guerre d'extermination à l'Est.
Et il faut bien se dire que, étant donné l'image qu'avaient les libérateurs, l'armée rouge par exemple, ou les GI, vous montrez que les GI oui. américains, accueillis comme nos libérateurs à juste titre, ont commis un certain nombre de viols aussi dont on ne parle pas. Enfin, dont on ne... Donc il y a en effet silence pour ceux qui les ont commis, mais silence pour celles qui l'ont subi. Et de votre côté, Geneviève et Colline, pour votre sujet, les problèmes de source alors, qu'est-ce que c'était pour vous ?
C'est fondamental, puisqu'en fait, bon, déjà, on emploie le terme de violence, et c'est pas forcément le terme qui va être spécifiquement utilisé dans les sources. Donc, c'est aussi, il y a un recodage, hein, de la part de l'historien, du sociologue, du côté de l'analyse pour identifier des faits violents. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui qui parcourt tout, puisque c'est un ouvrage interdisciplinaire, hein, je voudrais oui. vraiment mettre l'accent sur cette dimension-là. Il y a des historiens, des sociologues, et des sciences politiques, langage, cinéma. Et donc, le problème principal est celui du sous-enregistrement des faits de violence commis par les femmes.
Oui.
Donc, ça, c'est un point fondamental, puisque la première source, ce sont des sources policières, puis judiciaires, et que, effectivement, le fait de pouvoir qualifier les femmes comme ayant été autrices, actrices, hein, de faits violents, implique une reconnaissance de la part de ces deux institutions. Et on découvre qu'en amont, par ces deux institutions, il y aura une requalification des faits ou alors un déni de l'événement. Donc pour l'historien, les historiennes, l'enjeu est bien de retrouver sous d'autres formes ou à l'intérieur même de ces sources des qualifications de violence féminine, alors qu'elles n'en prendront ni le terme et qu'elles n'auront pas non plus les sanctions, hein, qui permettent aussi d'identifier les faits de violence.
Oui.
Ça renvoie d'ailleurs à deux de vos questions,
Colline,
c'est-à-dire ce que vous avanciez tout à l'heure, hein, sur la nécessité d'élargir la focale quand on travaille sur la violence des femmes. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elles sont pas dans les institutions qui reconnaissent la violence d'un point de vue institutionnel et officiel que les femmes ne sont pas violentes, hein. Par exemple, si on pose la question des femmes en prison, qui sont très peu nombreuses puisqu'elles représentent 3,4% de la population carcérale, la question, il faut la déplacer, c'est-à-dire où sont les femmes violentes si elles ne sont pas en prison. Ça, c'est un premier élément, et effectivement, l'ensemble des contributions contribuent à montrer qu'il y a un sous-enregistrement, une requalification des faits qui fait que les femmes sortent des archives, en tout cas officielles, d'enregistrement de la violence. Et le deuxième élément, c'est la difficulté, et là ça rejoint ce que vous disiez en partie, c'est-à-dire que du côté des femmes auteurs de violence, il y a aussi une difficulté à dire qu'elles ont été, qu'elles font usage de la violence. Ça aussi, on a un certain nombre de textes dans l'ouvrage qui le montrent, en même temps, parce que ces femmes sont doublement déviantes. À la fois, elles commettent des violences, et en même temps, elles transgressent l'ordre du genre.
Oui. Le problème avec votre livre, votre approche, c'est que par définition, dans les représentations de genre, la femme est douce et elle est victime et elle n'est pas violente. Donc, en effet, il faut arriver à surmonter ces stéréotypes, vous montrer que c'est souvent quand même des stéréotypes, pour arriver à atteindre l'objet. On voit que les difficultés sont très grandes, différentes, mais à chaque fois, pose la question du rapport des sexes à la violence, hein, et de la manière dont la société les considère. Alors, on va entrer maintenant un peu plus dans l'économie de chacun des livres. José Cubero, donc, votre livre « La femme et le soldat, viol et violence de guerre du Moyen-Âge à nos jours », paru donc chez Imago en 2012. Alors, on a tout de suite ces deux figures fortes, antithétiques, la femme et le soldat, la guerre. Hein, oui. Donc, pouvez-vous nous préciser ce que vous avez voulu faire? Pourquoi vous avez choisi ça?
Ce sont deux personnages un petit peu emblématiques parce que, à travers la femme et le soldat, dans mon esprit, lorsque j'ai terminé ce travail, le titre s'est imposé. Il s'est imposé naturellement, je dirais. Parce que j'ai ressenti ce travail comme un exemple de la domination et de la violence masculine qui s'exerçait vis-à-vis des femmes, là en l'occurrence vulnérables, en situation de guerre. Et donc, c'est un titre, encore une fois, qui me semble-t-il allait de soi, même si, selon les contextes, selon les moments, selon les grandes périodes, on perçoit quand même des évolutions.
C'est-à-dire... On va y venir aux évolutions. Mais juste une chose, oui. Les armes, oui. Les femmes et le soldat. Ce qui est très intéressant, c'est que oui. Les femmes sont généralement, le livre de Colline Geneviève dit, non, il y a eu des femmes armées. Enfin, oui. Majoritairement, le maniement des armes est quand même viril.
Oui. Oui, tout à fait. Bon, il y a quelques exceptions dans mon travail sur les dernières guerres, en particulier en Sierra Leone, où des adolescents ont été enlevés. Quand on pense adolescent, on pense toujours garçon. Or, il y avait quand même un tiers de filles et qui étaient souvent, pas toujours, mais armées et qui participaient parfois au combat. Mais oui, la femme et le soldat, bon, c'est tellement... Ça me paraît tellement évident que je ne l'ai pas dit. Le soldat est armé et il utilise de la puissance des armes pour imposer son désir, pour imposer une violence. Et si vous voulez, ces armes renforcent le sentiment de puissance et vont dans le sens de cette domination que l'on perçoit dans les sociétés de façon diverse, surtout dans les périodes que j'ai étudiées, où ça apparaît encore plus fortement. Mais le soldat, c'est celui, effectivement, qui est armé, qui impose sa volonté par les armes. Et lorsque des viols, il y a, par exemple, il y a de très nombreux témoignages qui ont été étudiés aussi par Stefano Audouin-Rousseau sur la Première Guerre mondiale, où on voit très bien comment des soldats allemands, on est dans une situation très particulière, hein, on est dans une situation d'invasion de la Belgique, des départements du nord de la France, situation d'anomie, c'est-à-dire de chaos total, et donc des petits groupes armés s'introduisent parfois dans les maisons, et effectivement, dans le groupe, il y a un ou plusieurs violeurs, et c'est presque toujours, toujours, en menaçant avec les armes. Donc, parfois, ce sont des coups, mais il y a toujours la menace des armes. Et la femme, face à cela, effectivement, apparaît comme vulnérable. Et lorsqu'elle est avec sa famille, ce qui arrive parfois aussi, la famille est impuissante, parce qu'en face, il y a la menace des armes, et donc de la mort. Et de la mort possible pour tous.
Ce qui se dégage à travers votre livre et les différentes scènes de guerre que vous étudiez, qui sont très nombreuses, c'est que l'usage du corps des femmes, c'est pas seulement comme objet de plaisir, au fond, mais comme objet d'appropriation politique et personnelle. Gagner une guerre pour les soldats, c'est s'approprier le corps interdit des femmes. La notion de butin. Et par conséquent, ça revêt là une signification politique. Signification politique qui apparaît dans une espèce de paroxysme dans les guerres de ex-Yougoslavie.
Bien sûr.
On y reviendra peut-être. Mais là où véritablement il fallait que les femmes donnent des serbes. Donc il fallait les violer pour qu'elles reçoivent du sang serbe et qu'elles soient ensemencées par le sperme du vainqueur. Ça, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Donc, tout ça court à travers votre livre. Il y a trois parties dans votre livre. Le viol subi, c'est plutôt la période médiévale, comme oui. Si ça allait de soi, au fond. Le viol dénoncé, et là, vous englobez la guerre 14-18. Et oui. Ce que vous venez de dire à propos des recherches d'Audouin-Rousseau rejoint cela. Et puis, le temps de la régression, dites-vous, 20e, 21e siècle. Alors, est-ce que ça veut dire que vous voyez une espèce d'évolution ou pas à travers ces
périodes ? Oui, ça s'est imposé, je dirais, chemin faisant. Au cours de mon travail, ces grandes périodes m'ont paru assez évidentes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le viol et toutes les violences faites aux femmes, c'était, je dirais, un implicite non-dit. Ça allait de soi. C'était la notion de butin dû. Et donc, au Moyen-Âge, effectivement, on pouvait faire bonne guerre, comme on disait, même s'il y avait déjà des tentatives pour limiter, je dirais, les exactions, la trêve de Dieu, la paix de Dieu, même s'il y avait les traités de chevalerie, les règlements des ordres de chevalerie. Mais c'était quand même une pratique très courante et le scandale venait non lorsqu'il y avait ce type d'exaction, mais lorsque c'était, par exemple, à travers les révoltes paysannes ou des révoltes urbaines, des populaires, entre guillemets, lorsque il y avait la possibilité pour eux, pensait-on, de s'en prendre aux femmes des notables. Là, ça devenait un vrai problème. Parce qu'on franchissait, je dirais, la barrière des classes. Et au début du 19e siècle, enfin, je dirais surtout pendant les guerres de l'Empire, ce qui m'a frappé, parce que je l'ai étudié plus particulièrement, parce qu'il y a également les gravures de Goya sur les désastres de la guerre.
Vous en faites un bel usage, oui.
Voilà, qui ont été publiées, il faut quand même le signaler, en 1863, bien après la mort de Goya.
On ne le sait pas toujours,
Et ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'une place était prise, c'est vrai à Badajoz en particulier, mais c'est vrai dans d'autres villes, les troupes anglaises en particulier, avec les Portugais, les Espagnols qui combattaient contre les Français, plus l'assaut avait été violent, plus les pertes avaient été élevées, et plus les exactions et les viols prenaient de l'importance. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y avait là une sorte, entre guillemets, j'ose à peine utiliser le mot, de compensation. Après le traumatisme de l'assaut. Une façon de dire, on est vivant et on prend notre dû, on prend notre butin. C'est pas, je pense, la notion de plaisir qui l'emporte à ce moment-là.
La notion de possession.
C'est, voilà, on possède, on soumet. Et on soumet les autres à travers le corps des femmes, qui sont un petit peu la propriété, entre guillemets, des hommes. Et donc, en prenant cette possession, on humilie également l'homme dans son rôle protecteur. Et à partir de la bataille de Solferino, il y a un tel choc, parce qu'il y a le début de la photo, il y a les désastres de la guerre de Goya.
Rappelez-nous la date de Solferino, 1859.
C'est le 24 juin 1859.
Voilà. Ça nous situe en plein milieu du 19e, sous le Second Empire.
Sous le Second Empire.
Et ce que vous dites, c'est qu'au fond, à cette époque-là, les mentalités, je ne sais pas quel mot employer, évoluent un peu. On commence à dénoncer ces faits de guerre. C'est à peu près vers cette époque-là qu'est créée la Croix-Rouge, par ailleurs.
Tout à fait. Et donc, c'est la conséquence.
Il y a une espèce de changement.
C'est la conséquence du choc de Solferino. Henri Dunant a vu la bataille de Solferino. Il a été extrêmement choqué. Bon, il a ouvert un hôpital. Bon. Et à la suite de cela, effectivement, il y a eu la première convention qui crée la Croix-Rouge, 1864. Et donc, là, c'est l'aide apportée aux blessés. Mais ensuite, vous avez un juriste qui s'appelle Gustave Moynier, qui est un Suisse également, va écrire un manuel qu'on appelle le manuel d'Oxford, et qui fait que les belligérants n'ont pas tous les droits, et qui essaie d'établir des interdictions, non pas dans la théorie, mais de façon très concrète, ce qu'il est interdit de faire. Et ensuite, cela débouche sur les conventions de La Haye de 1899 et celle de 1907. Autrement dit, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, certaines pratiques en temps de guerre sont dénoncées. Et les armées le savent. Et il y a une dotation qui se crée à l'initiative du grand milliardaire américain Carnegie qui doit établir des règles pour conserver la paix. Donc il y a une évolution, effectivement. Et à partir de là, le viol qui était subi devient un viol dénoncé, et on en revient à ce que l'on disait sur 1914-1918, surtout 1914.
Oui, qui est une période tout à fait paradoxale, dans le fond. À la fois une exaspération terrible des violences, la guerre 14-18, Chaque Mauss, par exemple, Georges Mauss, la fameuse théorie de la brutalisation qui s'introduit dans les sociétés du XXe siècle par la guerre 14-18, et en même temps, des limites qu'on essaie de mettre dans cette violence qui s'accroît. Ça, c'est vraiment le paradoxe du XXe siècle, hein, qui est le plus violent des siècles et celui qui, en même temps, dit qu'il ne faudrait pas tout de même aller trop loin. Et c'est vraiment un problème gigantesque. Mais vous venez de parler de ces manuels, de cette réflexion. Est-ce que la question du viol des femmes est explicitement visée dans ces textes ou dans ces discussions ?
Alors, ce qui est mis en avant dans les dernières conventions, c'est le respect de l'honneur des familles. Mais, bien entendu, à cette époque-là, il n'est pas question de citer le mot tabou, viol. C'est un mot qui n'apparaît pas. On dit simplement le respect de l'honneur des familles. Et dans le respect de l'honneur des familles, bien entendu, on peut y mettre le viol. Mais avant que le viol n'apparaisse dans la justice internationale de type humanitaire, il faut attendre les protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949, c'est-à-dire 1977. Et c'est à ce moment-là que le viol est nommément désigné. Et ensuite, effectivement, il y a une justice internationale qui va se mettre en route à travers des tribunaux pénaux et à travers la Cour pénale internationale aujourd'hui. Et là, effectivement, on va dénoncer, on engagera des poursuites contre le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une panoplie juridique au niveau international qui permet de poursuivre les auteurs de ces crimes, qui sont devenus d'abord crimes de guerre, puis crimes contre l'humanité, et ensuite crimes constitutifs de génocide, mais là il s'agit du Rwanda.
Oui, crimes imprescriptibles.
Imprescriptibles donc, absolument.
Et notamment à partir de 1977.
Voilà, hein, disons que le tournant, c'est vraiment 77.
C'est vraiment ça. Oui. Alors, il y a un paradoxe, José Cubero, vous semblez dire là à l'instant qu'il y a un progrès dans la législation internationale et que les choses sont mieux qualifiées et mieux, plus visibles finalement. Et pourtant, votre dernière et troisième partie s'appelle le temps de la régression.
Oui.
Et ça recouvre le XXe siècle, à partir au fond de l'entre-deux-guerres, hein, des années 1920-1930, jusqu'à nos jours. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ?
Parce que j'ai le sentiment que, enfin le sentiment, c'est une formule, disons que je suis arrivé à cette conclusion. Je suis arrivé à la conclusion que les viols ont été dénoncés pendant la Première Guerre mondiale, et ils ont été commis surtout dans les périodes d'anomie, c'est-à-dire en période d'invasion. Lorsque les belligérants s'installent sur des positions plus ou moins figées, que la loi militaire s'applique dans les territoires occupés, mais je dirais avec certaines règles, eh bien, on constate que, en dehors des périodes d'invasion, les viols ne sont pas, je dirais, particulièrement nombreux par rapport à cette période-là. Et tous les rapports, parce qu'il y a des rapports officiels avec témoignages, etc. Tous les rapports, tant belges que français, dénoncent les viols au début de la guerre, lors de l'invasion de cette période d'anomie. Alors ensuite, effectivement, il y a le travail qui est fait par toutes les instances internationales. Il y a la SDN. Il y a l'espoir que que la guerre, plus jamais ça, etc. Et pourtant, à partir de 1931, peut-être 37 ou 36, 36 c'est le but de la guerre d'Espagne.
Vous en parlez beaucoup, hein, il faut vous accorder à la guerre d'Espagne une place importante parce qu'elle a été un déferlement de violence sur les femmes. Alors là, des femmes, notamment de la part des phalangistes, était véritablement une terre à conquérir. Et il y a eu aussi, bien sûr, des viols de la part des républicains en représailles. Yannick Ripa avait étudié
ces
choses-là.
Alors,
dans cette période-là, vous montrez des épisodes.
Oui.
Au travers de ce progrès, entre guillemets, de la réflexion internationale. Vous montrez des scènes d'une brutalité, d'une violence inouïe. Il y a la guerre d'Espagne. Oui. Vous parlez aussi de Nankin. Qu'est-ce que c'est ? Pouvez-vous
Nankin, c'est la prise de Nankin par les Japonais. En 1937, ils ont pris Pékin, ils ont pris Shanghai, ils marchent sur Nankin, la ville va résister, finalement elle ne résiste pas. Les Japonais n'ont pas reconnu la convention de 1928 sur le traitement des prisonniers et ils vont se comporter d'une façon que nous avons du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'ils vont massacrer les prisonniers et que il va y avoir un nombre de viols. Il y a un débat aujourd'hui entre les spécialistes, qui est parfois assez dur d'ailleurs.
Très tendu. Hein, oui.
Sur le nombre de viols. Et ça prend une ampleur tout à fait considérable parce qu'on explique aux soldats japonais que, bien sûr, la guerre est dure, mais que lorsque la ville sera prise, etc. Et ensuite, les Japonais vont créer ce qu'on appelle les stations de réconfort. On va enlever des femmes à travers toute l'Asie du Sud-Est. Surtout en Corée, on va les tromper, 200 000 qui vont constituer des bordels militaires. Certains sont mobiles, accompagnent les troupes pendant leur déplacement. Et donc là, il y a une période d'exaction absolument, ça prend une ampleur tout à fait considérable. Et j'ajoute que lorsque la Wehrmacht mène son offensive contre l'URSS à partir de 1941, il y a des instructions pour dire que toutes les lois de la guerre sont abolies. Les lois de la guerre auparavant au Moyen-Âge, c'était le droit du vainqueur de faire tout ce qu'il voulait. Là, avec les conventions, les lois de la guerre limitent justement les exactions possibles. Et donc, c'est la guerre d'extermination à l'Est. C'est ainsi que l'appellent les Allemands aujourd'hui. Il y a une exposition qui a fait scandale en 1995. Qui a été revue, qui a été représentée, c'était la même, mais avec, je dirais, plus de distance par rapport au sujet. Et ajouter à cela l'armée rouge, et on considère qu'il y a eu 1 million de viols perpétrés par l'armée rouge. C'est Yann Kershaw qui donne ce chiffre.
Absolument, Yann Kershaw dans son livre.
Donc,
fameux.
J'y vois une régression, et ajoutons à cela la Bosnie
et le Rwanda. Qui à lui seul pourrait nous
800 000 victimes entre 800 000 et 1 million. Et 252 000 à 500 000 viols, on ne sait pas exactement. Qu'on n'a pas vu au moment où ils se sont produits. Oui. Qu'on n'a pas vu.
Alors, qui dit viol dit souvent aussi enfant.
Oui.
Enfant non désiré, accepté parfois. Dans des conditions extrêmement compliquées, vous en donnez beaucoup d'exemples. Autrement dit, on est là devant un fait historique, une série de faits historiques dont on a pris au fond conscience que récemment. Votre livre, de ce point de vue, est un livre important parce qu'il montre bien l'ensemble d'un bout à l'autre, au fond, de l'histoire du monde occidental. En l'occurrence, encore que vous allez aussi, en Afrique, en Amérique latine. Oui. Mais malgré tout, l'Occident est davantage visé. Alors, je voudrais rappeler le titre de votre livre, José Cubero, « La femme et le soldat, viol et violence de guerre du Moyen-Âge à nos jours », paru chez Imago en 2012. Je voudrais rappeler aussi, l'occasion m'en est donnée, le livre publié l'année dernière sous la direction de Raphaël Branche et Fabrice Virgili, qui sont deux auteurs qui ont étudié beaucoup ces problèmes. Raphaël Branche est surtout une spécialiste de la guerre d'Algérie et Fabrice Virgili, une spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. On lui doit notamment, vous en parlez beaucoup dans votre livre aussi, des tontes. Les femmes tondues, c'est pas. Vous en parlez également dans votre livre, Geneviève et Colline. Alors, ce livre dont je voulais donner le nom s'appelle Viol en temps de guerre. Et il rejoint votre livre. Ceci est intéressant parce que ça nous montre une historiographie qui se développe grâce à vous et grâce également à ses auteurs. Voilà. Alors. Le second livre qui nous occupe ce matin est le livre de Colline Cardy et Geneviève Pruvot, « Penser la violence des femmes » paru à La Découverte. C'est un livre collectif dont on a déjà donné quelques aperçus du point de vue de la problématique, du point de vue des sources, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus avant. Alors, il faut rappeler que ce livre est préfacé par Arlette Farge, et on va y revenir parce que Arlette Farge a un petit peu, du point de vue historiographique, introduit ces thèmes, avec une postface de Rosemarie Lagrave. 26 contributions, c'est dire la richesse du livre, on ne pourra pas évoquer toutes les contributions, et une très large introduction de vous-même, et on va surtout parler un petit peu de votre introduction qui est tout à fait considérable. Il y a une très imposante bibliographie, donc c'est un ouvrage qui est à la fois une somme, mais ce n'est pas une somme close, c'est un ouvrage initiateur qui ouvre des pistes. Alors, comment situer votre livre à toutes les deux dans l'historiographie ? Par rapport notamment au livre d'il y a peut-être un peu plus de 10 ans, dirigé par Arlette Farge et Cécile Dauphin, et qui s'appelait « De la violence et des femmes ».
Eh bien, ça va nous permettre de faire le lien avec le livre dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'en fait, le lien entre femmes violentes et violences faites aux femmes, qui est fondamentale en fait dans l'historiographie, parce que précisément c'est la violence faite aux femmes qui a recueilli, évidemment et de façon tout à fait nécessaire en fait, l'attention des chercheuses en sciences sociales et des chercheuses féministes plus précisément, et ça faisait partie de l'agenda politique hein, extrêmement urgent de contribuer par la science, hein, à la reconnaissance des violences faites aux femmes. Et votre livre participe de cette urgence politique. Et donc, évidemment, de ce point de vue, mettre au jour la violence exercée par les femmes, télescoper en quelque sorte cet agenda militant, politique et scientifique. Et donc, il y a des recherches pionnières qui ont été menées. Arlette Farge a coordonné avec Cécile Dauphin un ouvrage qui faisait déjà un premier... un recueil hein, de différentes recherches sur différents siècles, Marie-Elisabeth Anbad, Dominique Godinot, pour n'en citer que deux,
qu'on retrouve
dans notre ouvrage. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement, une filiation certaine, mais ce qui était très, très, très intéressant, c'est que dans cet ouvrage qui est publié 15 ans avant le nôtre, et dans lequel on s'inscrit hein, en termes de filiation, la part faite aux violences faites aux femmes et les violences exercées par les femmes constituent deux chapitres, en fait. Hein, et donc, on a en regard ces deux phénomènes. Et d'ailleurs, l'un et l'autre ne sont pas séparables. Hein. Nous, on a cherché à autonomiser. Non pas d'un point de vue scientifique, puisqu'on ne peut pas séparer ces deux événements et beaucoup de contributions mettent les deux phénomènes en regard. Mais on a cherché à déployer le premier chapitre de l'ouvrage d'Arlette Farge, en fait, coordonné par Arlette Farge, pour justement explorer l'ensemble hein, des violences possibles exercées par les femmes et en cela lancer un chantier de recherche.
Colline Cardy.
Effectivement, l'ouvrage d'Arlette Farge avait été, et de Cécile Dauphin avait reçu soit un silence, soit un accueil difficile. Hein, et elle parle même d'un accueil violent dans sa préface.
Accueil violent à la violence des femmes.
Absolument. Où on leur a reproché notamment hein, de parler d'une marge alors qu'il aurait fallu dénoncer la domination masculine. Or, je pense, et c'est un élément important de notre livre, que penser la violence des femmes, ça n'est pas nourrir des discours masculinistes qui feraient des hommes battus, etc. Mais au contraire, bien de penser aussi la violence faite aux femmes. C'est-à-dire que les deux choses, d'une certaine façon, ne sont pas antinomiques et que penser la violence des femmes, c'est aussi essayer de nourrir tout le discours, enfin tous les travaux sur le contrôle social des femmes qui produisent et qui fabriquent une catégorie de victimes en leur niant l'accès à la violence.
Oui, au fond, il y a deux écueils dans toute cette histoire, au moins. Il y a l'idée de prendre toujours la femme comme victime. Ça a été un petit peu le cri d'Elisabeth Badinter hein, quand elle fausse route en disant « Bon, on en a assez, des femmes toujours victimes. » Bon, bien, c'est une chose. Et puis, d'un autre côté, si on ne reconnaît pas les femmes comme potentiellement violentes ou réellement violentes, on leur retire des rôles historiques. Aussi bien le port des armes, effectivement, que de beaucoup d'autres formes d'intervention dans l'histoire. Par exemple, il y a dans votre livre, parmi les 26 contributions, il y en a une sur Charlotte Corday, le meurtre de Marat par Charlotte Corday. Rappelez-moi le nom de l'auteur.
Guillaume Mazeau.
Voilà. Et c'est tout à fait intéressant parce que dans les interprétations qui sont faites, on veut adoucir Charlotte Corday. Dites-nous un petit mot de cette scène de Charlotte Corday là, avec Marat, dans la baignoire et le couteau. La baignoire, c'est doux, hein, l'eau, le corps de Marat. C'est très intéressant parce que le corps de Marat, à la limite, est un corps presque féminin. Marat souffrait de maladies de peau. Est-ce qu'un homme souffre de maladies de peau? Je vous le demande, c'est une histoire de femme. Et il est là dans un bain, pendant qu'il y a la Révolution. Donc il est féminisé. Et Charlotte Corday avec son poignard. Extraordinaire. Alors,
effectivement, ce que montre Guillaume Mazeau là, dans son article, c'est effectivement à quel point ces deux personnages transgressent l'ordre des genres, posent problème, parce qu'effectivement, on a un Marat qui a des attributs du féminin et une Corday qui a des attributs du masculin viril. Et ce que montre très très bien Guillaume Mazeau en analysant le tableau de David qui fait disparaître Corday, c'est-à-dire qu'on a Marat effectivement dans sa baignoire avec le poignard et la lettre que Corday lui aurait envoyée dans la journée, Corday disparaît. C'est-à-dire que l'acte même et l'acte politique de Corday qui est revendiqué comme tel n'existe plus. Et tout le procès de Charlotte Corday, mais aussi la réception qui en sera faite, va viser à dénier la dimension politique de cet acte. Fouquier-Tinville en fera une femme manipulée, on va en faire une femme amoureuse, on va se poser des questions sur
la
nature, sur la couleur de ses cheveux, etc. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ouvre une brèche. Charlotte Corday. Et elle ouvre tellement une brèche que après ce moment-là, après aussi le moment où Olympe de Gouges va passer sur l'échafaud, il faut réintroduire de l'ordre. Et l'ordre passe par l'ordre des sexes. Et donc Guillaume Mazeau montre comment effectivement, après ça, le travestissement devient un délit pénal, etc. Et comment il y a la nécessité de revenir à quelque chose qui soit clair en termes de stéréotypes et de rôles de sexe.
Oui, autrement dit, reconnaître les femmes violentes dans leur violence même, c'est les reconnaître elles-mêmes comme sujet d'histoire. Hein. Et de ce point de vue-là, votre livre est tout à fait dans cette perspective. Alors, vous dites qu'il y a différents types de récits, et puis vous donnez trois grands cadres interprétatifs. Violence hors cadre, violence sous tutelle, violence subversive. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par récit? Et puis, on va se promener un petit peu dans vos trois parties en prenant des exemples.
On a pris le terme de récit, on aurait pu aussi prendre le terme de discours, mais dans la dimension du récit, il y a la notion de mise en intrigue. Et de fait, chaque récit met en intrigue une histoire de la violence des femmes avec véritablement une conclusion à chaque fois portée et un regard porté sur cet acte de violence. Et donc, la notion de récit nous permettait d'inclure aussi bien des récits de témoignages qu'on peut trouver, mais aussi le récit des historiens, le récit des criminologues, le récit des journalistes. Et de fait, les sources sont tellement variées qu'on a employé le terme de récit pour inclure tous ces types de sources. Donc on a distingué trois en incluant le récit le récit académique, universitaire dans ces récits.
Qui est un récit aussi.
Qui fait partie des récits, qui servira de source aux historiens et historiennes futures. Alors au départ, on a beaucoup hésité. On a fait un numéro de champ pénal dans le contrôle social qui s'appelle le contrôle social des femmes violentes, qui est accessible en ligne, qui est le premier opus de cette recherche en deux volumes, en quelque sorte. Et là, on en avait trouvé 8. Donc on a beaucoup réduit pour essayer de trouver trois récits qui permettaient de couvrir les autres. Et donc le premier, c'est le non-récit.
Le non-récit, c'est ça. Le déni de la violence.
Voilà, c'est un déni dans le sens où, l'événement n'est pas qualifié sous la forme d'événements violents. Il est requalifié, il est dénié. Et donc là, il y a un travail il faut exhumer cette violence.
Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples de déni comme ça?
Alors
déni
là,
de la violence
on a
des femmes.
Par exemple, on va parler de champ pénal, cette revue en ligne. L'exemple le plus manifeste qu'il y avait dans ce volume, c'était sur l'inceste féminin. Voilà, commis par les mères, et précisément, Fabienne Giuliani, qui a fait sa thèse sur cet inceste, nous a écrit un article montrant bien qu'on ne trouvait pas la qualification. Les femmes n'apparaissaient pas dans les sources sous ce qualificatif et qu'il fallait aller voir du côté de l'attentat à la pudeur pour trouver ces fameuses mères incestueuses. Et donc, ça impliquait de changer de catégorie juridique et donc de source. Donc là, on a par exemple un déni manifeste.
Oui. Ne pas admettre qu'il y a des mères incestueuses, c'est au fond nier une souffrance possible d'enfant.
On a un très bel article.
Le déni me paraît en effet tout à fait intéressant. Et vous dites très bien que, vous l'avez dit d'abord au début, que le féminisme en général, au début, n'a pas aimé trop étudier la violence des femmes, sauf Marie-Jo d'Avernas, qui est une pionnière, qui a déjà très longtemps avait ouvert la porte. Alors, votre deuxième catégorie, c'est la violence sous tutelle. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Là, ce deuxième type de récit reconnaît la violence des femmes. C'est-à-dire que dans le premier récit, finalement, cette violence n'existe pas, ou va être requalifiée, déniée, etc. Alors que là, cette violence féminine est reconnue, et il y a tout un tas de représentations, de romans, etc., qui reconnaissent la violence des femmes. Mais pour autant, la violence féminine ici est disqualifiée. Elle est disqualifiée et il faut la mettre sous contrôle, il faut la mettre sous tutelle. Et là, à l'intérieur de ce récit, on peut distinguer différents sous-récits. On s'est attelé à faire un travail de typologie de sociologue. Le premier, c'est cette idée que la violence des femmes serait une violence à civiliser.
Voilà, elles sont sauvages.
Voilà, le propre du féminin, c'est bien la démesure. Voilà, oui. La nature même des femmes serait liée à la démesure, l'hystérie, l'utérus. Et donc, il y a bien tout un tas de discours, voire de mythes, qui vont mettre en scène une violence toute féminine, mais une violence qu'il va falloir civiliser. C'est ce mythe des Barulhas cité par Godelier, où les femmes, au départ, possèdent l'arc et les flèches, mais les montent à l'envers. Et il faut que les hommes arrivent pour leur apprendre à faire les choses correctement et donc à civiliser cette violence.
Les Amazones, c'est le mythe des Amazones.
Tout à fait.
On l'a
casé ailleurs, le mythe.
Vous l'avez mis ailleurs.
Donc toujours dans ces violences féminines à mettre sous tutelle, il y a cette idée aussi que la violence des femmes serait une violence à soigner. Et là, on a tout le poids des catégories psychiatriques, psychologiques, qui vont là aussi dénier aux femmes le statut de sujet, puisque finalement, leur violence ne serait l'expression que d'une maladie psychique, d'un désordre psychique, d'une histoire familiale compliquée, etc. Et on peut à ce propos,
elles sont malades.
C'est comme ça, par exemple, qu'en prison, tous les types de violences contre soi, puisque évidemment on aboutit à des catégories très sexuées aussi, les violences contre soi seraient proprement féminines, et ces violences contre soi, par exemple en prison, qui sont par les femmes détenues revendiquées comme une façon de mettre en cause l'ordre carcéral, eh bien en prison vont être pensées comme le fait d'un psychisme désordonné et donc d'une histoire proprement individuelle. Donc là aussi, on a une disqualification très nette de la violence féminine. Oui. Et puis on a un troisième type de récit dans cette violence,
sous tutelle.
Ce serait l'idée que la violence des femmes n'est que l'expression de la domination masculine et que les femmes agiraient sous l'emprise des hommes.
On a l'exemple des femmes kamikazes.
Voilà, ce texte de Sonia Dayan Hepburn qui montre bien comment les femmes kamikazes sont toujours pensées comme étant sous le joug d'hommes, etc. Mais on va retrouver ça aussi dans le cas de Charlotte Corday, on en a parlé, dans le cas des femmes d'Action Directe, dont on va aussi très souvent dire que finalement c'était des femmes amoureuses, Nathalie Ménigon ou Joël Aubron. Et donc ça, c'est un discours qui revient relativement souvent.
Mais ce qui est très intéressant dans cette partie-là, la deuxième partie sous tutelle, c'est que s'il y a violence, on cherche à l'expliquer parce que la nature des femmes c'est pas la violence, c'est la douceur, c'est bon, etc., etc. Donc on cherche toujours à l'expliquer, soit par les hormones. Il y a aussi Georges Heuillet, que vous citez, qui est un médecin psychiatre célèbre, et qui dit c'est la montée des hormones, puis il y a des périodes dans la vie des femmes où elles sont violentes.
L'adolescence, la ménopause.
C'est leur corps, la ménopause, les règles, etc., etc. À ce moment-là, il ne faut pas se trouver sur leur chemin, mais c'est pas leur nature. C'est pas dans la nature, c'est l'exception liée à des éruptions volcaniques exceptionnelles. Je trouve cette partie en effet très intéressante, qui fait réfléchir beaucoup. Et au fond, c'est toujours le retrait de la négation de la femme comme sujet, qui assume ses actes. Au fond,
c'est autre chose qui parle.
Oui. Ouais. Exactement. La troisième partie, Geneviève Fruveau, c'est la violence subversive.
Oui, c'est cette violence subversive, elle est double. En fait, on l'a déclinée sous deux formes. Et donc là, on va parler des Amazones, effectivement, parce que la première violence subversive serait tout simplement une inversion de la domination masculine. C'est-à-dire que ce serait une domination féminine sur les hommes. Et le reste du monde social. Et là, on voit qu'on touche à quelque chose de doublement tabou, hein, qui est donc la possibilité d'un retournement de pouvoir, d'une part, et d'autre part, le fait que les femmes puissent former un groupe, un collectif féminin, puisque on dit bien les Amazones au pluriel, donc une société féminine qui serait à la fois dotée du pouvoir de violence et dotée du pouvoir tout court, sur les hommes notamment. Et donc là, on est vraiment, cette violence-là, ce qu'on a constaté en fait, c'est les occurrences beaucoup plus réduites de son actualisation, et qu'effectivement, le mythe des Amazones est précisément quelque chose de redoutablement mythique, puisque quand il s'agit de chercher des organisations collectives relativement pérennes, de collectifs féminins qui organisent cette violence sur le mode de l'inversion totale, les exemples manquent. Il n'empêche que, évidemment, on ne va pas se situer uniquement dans le registre fictionnel, notamment, ou le registre iconographique, et qu'il y a quand même des espaces sociaux qu'on a essayé de déterminer, qui seraient donc, par exemple, la violence exercée à l'intérieur des familles. Le premier espace de domination féminine où le pouvoir de violence peut s'exercer, et c'est celui auprès des enfants, notamment.
Sur les Amazones, juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu... Les Amazones, c'est un mythe.
Oui.
Les historiens, les anthropologues ont montré que les Amazones n'avaient jamais existé. C'était une construction mythologique. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de mélanger les représentations, ce que les historiens appellent les faits? Comment vous faites avec ça? Comment introduire les Amazones dans la violence subversive, car c'est finalement une image de la violence, une représentation de la violence subversive. Mais il y a eu aussi des femmes violentes, en fait, historiquement.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, oui. dans l'ouvrage, on a consacré la dernière partie dans ce qu'on appelle les figurations de femmes violentes, dans lequel, évidemment, on a traité du traitement des représentations. D'ailleurs, on s'attendait à ce que cet ouvrage qui part d'un appel à contribution n'évoque que des représentations. Et c'est ça aussi, je pense, tout l'intérêt de l'ouvrage, c'est de mettre, de ne pas s'être consacré uniquement à ces phénomènes mythiques et mythologiques, mais de montrer des actions concrètes, et notamment, par exemple, la violence domestique exercée par les femmes a été étudiée dans un village au Mali. Mais par ailleurs, on voit bien aussi au XVIe siècle, dans une autre période aussi, la châtelaine et ses gens, la défense du fief, le rapport de la maîtresse était domestique. Et donc, on voit bien là qu'on est dans des situations concrètes, répertoriées, de femmes fortes, disposant d'un pouvoir qui est...
pouvoir de domination.
Un pouvoir de domination qu'on peut... à leur rang, principalement. Jusqu'aux femmes flics, donc là, on a une reconnaissance d'un pouvoir aux femmes dans l'armée, où elles ont un pouvoir de violence légale qui leur est donné en droit, une véritable habilitation. Donc ça, c'était le premier élément qui était cette violence de type Amazone, et c'est vrai que c'est en référence à ce mythe, effectivement. La deuxième violence qu'on a pu dégager, c'est une violence émancipatrice, également subversive, mais qui repose sur un autre argumentaire, qui est celui du registre de l'égalité. C'est-à-dire que la violence exercée par les femmes, le pouvoir de violence est pensé comme l'accès pour les femmes à une égalité des sexes. C'est-à-dire que, puisque les hommes ont droit à des métiers, hein, dans la division sexuelle du travail. On leur a donné des métiers où l'usage de la violence fait partie, hein, de la panoplie des instruments, des moyens et des fins de certains de ces métiers, qu'ils soient légaux ou illégaux, déviants ou non. Il s'agit de penser l'égalité des femmes tout simplement par la possibilité pour elles d'intégrer ce type de profession. Et donc là, on a une violence émancipatrice. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est
porter
que...
Porter les armes.
Le droit de porter, oui, les armes, et qu'il y a un lien fort, oui, qui est fait entre ce droit-là et l'accès à la citoyenneté. On revient à ce que vous disiez sur devenir sujet. Et effectivement, c'est intéressant de voir dans les années 30 comment les suffragettes portaient en même temps à la fois la demande du droit de vote et la demande du droit de police. C'est là qu'on voit effectivement comment l'accès au métier, à la violence d'État notamment, a pu être porté par le féminisme d'État, en l'occurrence, sur le registre de l'égalité. Ce qui n'a pas toujours été d'ailleurs entendu comme tel par le féminisme, hein, pour qui il était évidemment extrêmement important de ne pas encourager la violence d'État. Donc c'est une revendication d'égalité extrêmement complexe.
Extrêmement importante, oui, oui. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en faisant ce livre et en le fermant, avec la conclusion aussi de Rosemarie Lagrave ?
Alors il y aurait des tas de choses à dire, mais peut-être que la question qui nous a habité l'une et l'autre et qui nous a fait dialoguer sans cesse, au fond, est-ce qu'on veut que les femmes soient violentes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit, puisque nous produisons aussi un récit, si on va jusqu'au bout de notre réflexion aussi, nous aussi on produit un récit sur la violence des femmes, est-ce qu'on est là pour prôner la violence des femmes ? Ce qu'on revendique, ça, et c'est ce dernier récit dont parlait Geneviève qui est important, c'est un accès égal au pouvoir de violence. Et ce que montre ce livre, c'est effectivement la dimension à la fois genrée, mais aussi profondément politique de la violence, sans dire pour autant que toute violence est politique. Il n'empêche que y a un lien très fort entre accès à la citoyenneté et accès au pouvoir de violence. Et donc, il y a la nécessité de revendiquer cette égalité. Pour autant, ça n'est pas...
C'est pas une apologie de la violence.
Absolument.
Vous ne faites pas l'apologie de la violence. Ça, il faut bien le dire. Et vous le dites.
Absolument.
Vous le dites. C'est tout à fait intéressant. Geneviève, vous vouliez peut-être compléter ce point.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a quelque chose en revanche qu'on peut revendiquer, affirmer, c'est l'affirmation des femmes fortes. C'est-à-dire, la violence n'est qu'un aspect d'un autre phénomène, c'est qui socialement est considéré comme vulnérable et non vulnérable, et qui socialement est considéré comme menaçant et non menaçant. C'est-à-dire, ayant la possibilité de répondre par ses propres armes à la violence subie. Et là, on voit vraiment qu'il y a une distribution sociale très nette entre des corps vulnérables et des corps invulnérables, et que si ce livre, dans de nombreuses contributions, porte le sujet de la démonstration et de la performance et de la mise en scène d'une non-vulnérabilité des femmes. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, à la violence des femmes, parce qu'on ne fait pas l'apologie de la violence, mais oui aux femmes fortes. Voilà.
Oui, aux femmes fortes. Vive les femmes fortes. Voilà. Et ce que votre livre dit bien, par conséquent, Colline Cardy et Geneviève Pruvost dans « Penser la violence des femmes », qui est donc paru à La Découverte en 2012. Vous citez souvent John Scott, qui est une des théoriciennes du genre et qui se reconnaît dans beaucoup de vos analyses, et vous inversement. Et je voudrais signaler que le livre de John Scott, De l'utilité du genre, vient de paraître chez Fayard, dans une traduction de l'anglais faite par Claude Servan-Schreiber. On y retrouve les principaux essais de la théoricienne du genre entre 1986 et 2011, depuis le célèbre « Le genre, une catégorie utile d'analyse historique », dans une traduction nouvelle de Claude Servan-Schreiber, jusqu'à un article sur la séduction, en quoi la séduction serait-elle une marque ou un ingrédient de la culture nationale française, avec en conclusion, le lourd passé du féminisme. Très intéressant. Voilà beaucoup de livres qui nous intéressent. Et je voudrais, pour finir, en rappeler une dernière fois les titres. José Cubero, La femme et le soldat, viol et violence de guerre du Moyen-Âge à nos jours, chez Imago. Et puis Colline Cardy et Geneviève Pruvost dirigent Penser la violence des femmes, paru à La Découverte. C'était Les Lundis de l'Histoire, présenté aujourd'hui par Michel Perrault, avec comme réalisatrice Ghislaine David, prise de son Mathieu Leroux. La semaine prochaine, Les Lundis de l'Histoire seront présentés par Roger Chartier. Et dans quelques instants, C'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Au revoir.